Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée du média suivant, la presse. Au programme, le jardin de Métis, le legs fleuri d'Elsie, l'imperfection, les trois priorités de Fadi Daffer et pollinisateur recherche fleurs. Idéal. Bonne écoute.
Les jardins de Métis, le legs fleuri d'Elsie. Un texte d'Isabelle Morin paru le 6 mai 2023 dans la presse. Elsie Reford a passé plus de 30 ans à transformer une forêt d'épinettes en sanctuaire de plantes. Son arrière-petit-fils a consacré l'équivalent de sa vie à préserver cet héritage devenu une référence en horticulture. Avec un troisième ouvrage sur le sujet, Alexander Reford ouvre un autre pan de l'histoire de son aïeul et dévoile certains des plus beaux trésors des jardins de Métis. Si elle revenait dans son paradis fleuri, Elsie Reford retrouverait ses jardins métamorphosés par le temps. Sans doute serait-elle ravie de découvrir des œuvres d'art semées parmi ses plantes. Elle serait à coup sûr étonnée que son parcours ait inspiré autant d'artistes et d'artisans. Un roman, un spectacle de cirque, de la musique de chambre, une biographie et plusieurs livres d'horticulture prennent leur source dans les beautés qu'elle a créées avec une infaillible détermination. Elsie collectionnerait probablement ses honneurs avec l'enthousiasme contenu d'une châtelaine, fière mais secrètement offusquée que des millions de visiteurs aient pu s'introduire dans le camp de pêche familial. Elle réservait sa villa à Estevan aux invités de marque et gardait les sans-acres hérités de son oncle en bordure du fleuve et de la rivière Métis comme une forteresse à l'abri du bruit des voitures et de toute machinerie horticole. Réfractaire à une certaine modernité, elle n'en était pas moins visionnaire. Une mondaine qui mettait chaque jour les mains à la terre avant d'enfiler sa robe de soirée, une meneuse qui n'aimait pas être menée et qui aurait probablement été politicienne ou dirigeante d'entreprise de nos jours, dépeint Alexander Reford en entrevue. Dans le livre « Dans les jardins de Métis, à la rencontre d'Elsie Reford » publié aux Éditions de l'Homme, l'auteur raconte cette femme d'exception, engagée en politique et pour la condition féminine, passionnée d'art, de pêche, de musique, de mode et de sport, dont les jardins demeurent toutefois le legs le plus tangible. Son sens du design et son audace ont contribué à façonner la culture horticole en climat nordique et lui ont valu de gagner le respect du monde botanique. Héroïne du monde horticole. En 1926, alors qu'elle a 54 ans, Elsie se lance dans le jardinage sans rien connaître aux plantes. Elle se gave de lectures horticoles et évite délibérément l'aide de professionnels. Ce côté autodidacte contribuera à donner à ses jardins un aspect particulier. Son œuvre défie les règles horticoles de l'époque et s'exprime selon une esthétique et une approche écologique unique. Elle a découvert que l'épaisse couverture de neige combinée à l'humidité du fleuve et de la rivière Métis créait des microclimats propices à la culture de certaines plantes exotiques, raconte Alexander Reford. Personne n'avait encore tenté de créer un jardin dans la région du Bas-Saint-Laurent où les conditions climatiques étaient jugées trop rudes, explique Alexander Reford. Avec un sol argileux recouvert de terre pauvre, le domaine Estevan était par ailleurs impropre à la culture. La jardinière a remédié à ses lacunes en créant son propre terreau de sable et de feuilles mortes. En 10 ans, elle a ainsi métamorphosé plus de 20 acres de terre hostile en un jardin époustouflant. Les deux décennies suivantes ont été consacrées à le peaufiner jusqu'à sa mort en 1967. Collectionner les plantes comme les tableaux. L'œuvre d'Elsie Rifford est un jardin de collectionneur et diffère du jardin ornemental du fait que les plantes sont regroupées par espèces et par variétés. Cette particularité n'est pas étonnante lorsqu'on connaît la ferveur d'Elsie pour les collections de toutes sortes, essentiellement des tableaux, bijoux et objets d'art. Dans les années 1920, la mondaine fréquentait assidûment les galeries de New York et de Londres. Cet intérêt s'est naturellement transposé aux plantes. C'est cette collection végétale qu'Alexander Rifford présente dans son ouvrage et que Louise Tanguay illustre en photo. 12 plantes emblématiques parmi les favorites d'Elsie, dont l'azalée, la rose, la pivoine, la gentiane, le lys et le délicat pavot bleu de l'Himalaya, qui contribuent à la renommée des jardins de Métis. Dans ses carnets, la jardinière avait minutieusement pris en note les détails de ses explorations. L'auteur les a épluchés pour transmettre ses observations et conseils. Elsie Rifford vénérait les beautés naturelles du site, auxquelles elle ajoutait sa touche. Les jardins de Métis se suivent le long du ruisseau et sont entrecoupés de petits bois laissés intacts. Elle a osé introduire des plantes de différents pays du monde sans se laisser freiner par les connaissances de l'époque qui estimaient certaines plantes trop fragiles pour notre climat ou trop complexes à cultiver, souligne son arrière-petit-fils. C'était vraiment une aventurière horticole. À l'aube de ses 100 ans, l'héritage enchanteur d'Elsie Rifford est toujours bien vivant et lui ressemble. Parfumé, intime, audacieux et créatif. De ceux dans lesquels on entre en silence comme dans une cathédrale pour mieux se livrer à la contemplation. Et de tout cela, Elsie ne pourrait qu'approuver. Co-fondée en 1995 par Alexander Rifford, les Amis des Jardins de Métis assurent la préservation et le développement durable des lieux en instaurant des pratiques écologiques comme l'usage de vélos plutôt que de véhicules. L'organisme de bienfaisance propose également des activités culturelles en temps estival. C'était « Les jardins de Métis, le legs fleuri d'Elsie », un texte d'Isabelle Morin paru le 6 mai 2023 dans la presse. L'imperfection. Un texte de Laurence Vincent, paru le 13 mai 2023 dans la presse. Mon premier voyage professionnel a eu lieu à l'écoquartier d'Orestad à Copenhague. Je me souviens d'une planification remarquable. Une grande zone à redévelopper, un transport collectif structurant, les meilleures pratiques de développement durable, des écoles innovantes sur le site, les parcs aménagés, les services complétés et un concours d'architecture pour choisir les différents promoteurs qui auraient la chance de s'y retrouver. Quelle exemplarité que ces Danois! Et pourtant, je me rappelle surtout ces espaces tellement grands qu'ils donnent l'impression d'être vides. Du manque de vie, de mon sentiment d'ennui à marcher d'un super îlot à un autre, des rares cafés bio, mais très peu achalandés. Alors que tous s'enthousiasmaient sur le savoir-faire scandinave, je n'arrivais pas à partager leur engouement ni à m'expliquer la source de ma déception. C'était cérébralement stimulant de visiter ces lieux, mais je n'avais pas envie de m'y attarder. Cette planification représentait le rêve de tout promoteur, mais est-ce que l'expérience humaine et urbaine en était grandie? Est-ce qu'on s'y sentait mieux? Est-ce qu'on avait envie d'y habiter, d'y marcher, d'y flâner? Je suis bien consciente que le développement scandinave est encensé par le monde entier et j'en reconnais les mérites. L'intervention des autorités en amont pour construire des infrastructures, des services et offrir des transports en commun s'avère fondamentale pour développer des projets d'envergure. Toutefois, je ne pouvais faire autrement que de conclure qu'Orestad manquait d'âme. C'est lors d'un voyage consacré à l'architecture à Rotterdam, cette fois-ci, que j'ai compris ce qui rendait les espaces plus chaleureux. Je suis entré dans un grand café bondé de monde et je m'y suis tout de suite senti chez moi. J'ai porté attention au plancher vieilli, à la peinture parfois écaillée sur les colonnes, à la lumière magnifique qui traversait les grandes fenêtres à carreaux un peu sales, et j'ai réalisé que c'est dans ces petites imperfections que les lieux deviennent attachants. Bien que Rotterdam aussi ait fait le pari de l'architecture signature, c'est l'approche ascendante, communément appelée « bottom-up approach », qui a retenu mon attention. Cette idée selon laquelle les citoyens doivent assumer une responsabilité partagée et active dans la vitalité urbaine, et que les initiatives populaires sont déterminantes pour le succès de nos communautés, autant d'un point de vue social et économique que culturel. À Rotterdam, cette approche est omniprésente et se traduit par beaucoup d'interventions éclectiques. L'envahissement des berges par de petits marchés, de l'art extérieur, des constructions temporaires, des terrasses spontanées, la réhabilitation par la population d'un ancien chemin de fer pour en faire une zone d'agriculture urbaine, version citoyenne de la High Line de New York. C'était moins lisse, moins entretenu, moins organisé, mais c'était vivant, ressenti, sincère. On avait envie de s'y impliquer, de participer à notre manière, d'y ajouter notre touche, comme si le fait que ce ne soit pas parfaitement exécuté nous inspirait et nous donnait le goût d'y mettre notre grain de sel. Et j'ai envie de nous dire qu'ici, à Montréal, nous n'avons pas à être complexés. Nous les avons, ces imperfections qui nous donnent envie d'appartenance, ces espaces qui sont suffisamment aménagés pour qu'ils soient agréables, mais qui donnent envie aux gens de s'approprier l'espace public, de l'aménager à leur image, de l'inventer selon l'heure ou l'usage. Nos ruelles en sont des exemples formidables, nos berges du canal de la Chine aussi. En réalité, ce sont les gens qui font la ville. Leur implication, leur envie de connivence, leur complicité, leur inventivité des lieux, leur envie d'y passer du temps, de s'ouvrir aux possibilités, aux étrangers, au hasard. Quand c'est trop parfait, trop achevé, trop poli, il n'y a plus de place à l'improvisation. Il n'y a plus de place pour l'authenticité. N'est-ce pas vrai pour les lieux autant que pour les humains? N'aime-t-on pas mieux les gens qui ont quelques défauts plutôt que ceux qui prétendent être irréprochables? Notre Montréal est imparfait et c'est pour ça qu'on l'aime. Il a encore plein d'endroits à développer qui ne demandent qu'à être animés. Nous avons, chez nous, cette expertise et les groupes capables d'accompagner les ambitions collectives. Il ne reste plus qu'à se donner la flexibilité d'adapter le cadre réglementaire et d'assouplir les normes usuelles pour permettre l'originalité. À l'heure où nous sommes à redévelopper de grandes zones urbaines, ne devrions-nous pas nous assurer de créer des lieux appropriables, de laisser de l'espace moins planifié pour ouvrir la porte à la créativité citoyenne? Donnons-nous le goût de nous impliquer, d'avoir des idées et de les concrétiser. Amenons de la vie dans ces endroits imparfaits. Sortons nos tables à pique-nique, nos pousses, nos guirlandes lumineuses et nos bouteilles de vin. Laissons nos enfants se construire des cabanes, des kiosques à limonade et des rampes de patins à roulettes. Approprions-nous notre ville imparfaite. C'était « L'imperfection ». Un texte de Laurence Vincent, paru le 13 mai 2023 dans la presse. Les trois priorités de Fadi Daguerre, Un texte de Maïssa Ferrand, paru le 15 mai 2023 dans la presse. Recruter et retenir plus d'effectifs, prévenir des fusillades et se rapprocher des citoyens. Le directeur du service de police de la ville de Montréal, SPVM, Fadi Daguerre, assure que les efforts sont faits pour lutter contre la prolifération des armes à feu à Montréal et améliorer les conditions de travail des policiers qui font face à des interventions de plus en plus risquées sur le terrain. M. Daguerre a fait le bilan de ses 100 premiers jours en poste lundi matin, le 15 mai 2023, lors d'un point de presse. Il a réitéré ses trois grandes priorités. Le recrutement et la rétention d'effectifs, la lutte contre la violence par arme à feu et le rapprochement des policiers avec la population. Il a notamment souligné l'augmentation de 30 % de salaire pour les recrues et la récente approbation de la convention collective. Nous avons réussi à stopper l'hémorragie. On a mis en place des mesures historiques pour favoriser l'attractivité, a expliqué M. Daguerre. Le SPVM veut maintenant permettre à des policiers retraités de revenir travailler dans leur rang, selon leur disponibilité. La police de Montréal s'est aussi ouverte à des profils différents. Le nombre de places dans le programme AEC Diversité policière a été augmenté en élargissant les candidatures aux profils relevant du domaine des études sociales. Des criminels à surveiller. La lutte contre les armes à feu demeure une priorité au SPVM. Le travail sur le terrain a permis 107 arrestations en lien avec les armes à feu depuis le début de l'année. On parle de 249 armes saisies. Le SPVM va mettre en place cet été une dissuasion ciblée, a d'ailleurs annoncé M. Daguerre. Les autorités exerceront une pression constante sur des personnes qui ont des comportements indiquant un lien avec les conflits armés, a-t-il précisé. La métropole fait face à de nombreux incendies criminels, au fléau des vols de voitures, mais aussi à la fraude. Il est toutefois difficile de s'attaquer à des sources de financement qui passent sous le radar, même si la fraude peut servir à acheter des armes à feu, a admis le chef. On a un partenariat avec les banques. Je vais être franc, tant qu'on n'a pas une victime qui porte plainte, on a moins de marge de manœuvre. Mieux comprendre Montréal. Les nouveaux agents embauchés cet automne auront l'occasion de faire une immersion de 4 semaines dans la communauté avant d'entrer en fonction. Ce projet est à l'image du modèle implanté à Longueuil par M. Daguerre pour permettre aux agents de se familiariser avec la réalité de la métropole et d'être confrontés à divers enjeux dans un autre contexte que des interventions ou des appels au 911. Ça va permettre à ceux qui ne viennent pas de Montréal de connaître la ville. J'invite d'ailleurs nos futurs policiers à venir s'établir à Montréal, a ajouté le directeur du SPVM. La police de demain doit être proactive, répète-t-il. On ne peut plus juste répondre aux appels. Il faut agir avant l'appel. On veut traiter les causes, pas les symptômes. Et en ce moment, on est encore beaucoup trop dans les symptômes. Quelques chiffres. Janvier à avril 2022. 5 meurtres par arme à feu. 18 tentatives de meurtre. 43 déchargements d'armes à feu. Janvier à avril 2023. 1 meurtre par arme à feu. 14 tentatives de meurtre. 35 déchargements d'armes à feu. C'était les trois priorités de Fadi Daguerre, un texte de Maïssa Ferrand, paru le 15 mai 2023 dans la presse. Pollinisateurs recherchent fleurs idéales. Un texte de Pierre Gingras, paru le 6 mai 2023 dans la presse. Il n'y a pas très longtemps, ils inspiraient le dégoût. Aujourd'hui, la plupart sont à la mode. le public a réalisé que les insectes pollinisateurs sont responsables d'une grande partie de ce qui se retrouve dans notre assiette et qu'une grande partie de la production agricole a absolument besoin de leur intervention. Mais bon nombre de ces invertébrés sont en déclin et exigent un coup de main. Tour d'horizon d'un petit monde ailé et quelques suggestions de plantes bienveillantes. À part les abeilles domestiques, les gros bourdons poilus ou encore les guêpes, surtout réputées pour leurs piqûres douloureuses, les insectes pollinisateurs sont méconnus. On en compte des dizaines de milliers d'espèces, mais leur efficacité pollinisatrice varie beaucoup. Le groupe des abeilles est passé maître dans le domaine en raison notamment d'un corps poilu qui permet au passage de recueillir le pollen et de le transporter d'une plante à l'autre, assurant ainsi leur fécondation. Il existe 350 espèces d'abeilles sauvages au Québec qui jouent un rôle essentiel auprès de la flore québécoise. Habituellement solitaires, elles ont très peu de rejetons et sont actives sur une courte période. La championne pollinisatrice reste l'abeille domestique, active durant toute la belle saison et dont les effectifs peuvent atteindre plus de 30 000 individus par ruche au cours de l'été. Les mouches, les sirfes et bombiles, notamment, figurent parmi les petites bêtes qui visitent le plus souvent les fleurs. Elles ressemblent parfois à de petites abeilles et jouent aussi un rôle majeur, notamment chez les plantes peu prisées des vraies abeilles comme les carottes et les oignons. Travaillent aussi à la pérennité végétale les papillons, 136 espèces diurnes et 3000 espèces nocturnes, et l'immense regroupement des coléoptères, dont certains, il faut le dire, sont plus connus comme insectes nuisibles, comme ces scarabées dévoreurs de jardins et de gazon. De la longue liste de végétaux propices aux pollinisateurs, les plantes indigènes sont toujours les plus recommandées, car elles favorisent particulièrement la faune entomologique locale tout en étant aussi appréciées de l'abeille domestique. Le hic, c'est que le choix des plantes indigènes en pot est souvent très limité dans les centres de jardin. La plupart du temps, on recommande de procéder avec un semis regroupant plusieurs espèces qui devraient fleurir à diverses époques de la belle saison. Aussi, offerts sur l'Internet, ces kits de semences exigent une bonne préparation du terrain et éventuellement une gestion serrée, sinon votre beau jardin de fleurs sauvages deviendra rapidement un champ de fardoches. Le meilleur jardin pour favoriser les pollinisateurs compte plusieurs espèces de plantes, notamment des indigènes, fleurissant à divers moments. L'ajout d'un bain d'oiseaux attirera non seulement plusieurs amis à plumes, mais de nombreux insectes, dont les abeilles, qui viendront s'y abreuver régulièrement. Pépinière spécialisée dans la production de plantes indigènes depuis des années, la maison Aiglon Indigo de Lourdes, dans le centre du Québec, privilégie la vente en gros volume. Mais elle vend aussi au détail, seulement en ligne, certaines plantes intéressantes en pot. En allant sur son site et en visitant le catalogue agricole, vous découvrirez un onglet qui mentionne les choix d'espèces attirant les pollinisateurs et leur disponibilité. Chez les arbres et arbustes favorisant les insectes pollinisateurs, amélonchiers, cerisiers décoratifs, sureaux, viornes, physocarpus et sorbiers d'Amérique sont souvent les plus recommandés. Le choix des plantes herbacées, quant à lui, est considérable. Toujours d'actualité, même s'il date de plusieurs années, le document Plantes mellifères du Québec suggère plus de 200 espèces indigènes ou horticoles, en incluant arbres et arbustes, par ordre d'importance. Par ailleurs, n'oubliez pas que certaines plantes bulbeuses extrêmement hâtives représentent souvent une planche de salut dès le mois avril. Crocus, scie, pushkinia et les splendides errantes sont de ceux-là. Le jardin Daniela Séguin nous fait aussi quelques suggestions. Considéré comme un arbuste, l'amélonchier est parmi les plantes indigènes les plus prisées des insectes pollinisateurs. Il fleurit au printemps et donne de délicieux petits fruits. directeur de l'Insectarium de Montréal, Maxime Larrivée cultive personnellement certaines plantes dans le but avoué d'attirer des insectes particuliers, notamment un papillon, le grand porte-queue. Il invite d'ailleurs le public à visiter le nouveau jardin des pollinisateurs ouvert en juin dernier en face de l'Insectarium et conçu spécialement pour les insectes. Pour favoriser l'ensemble des pollinisateurs, M. Larrivée conseille d'abord de planter des espèces qui fleuriront à tour de rôle à partir des premiers jours du printemps jusqu'à l'automne. L'objectif est d'assurer une production de nectar pour de nombreux insectes dont la présence varie au cours de la belle saison. Par ordre de floraison, il préconise le trèfle et le pissenlit. Certaines municipalités demandent à leurs citoyens d'éviter la coupe de gazon en mai. Viennent ensuite le bleuet en corymbe, les lilas, les menthes, les liatrices, puis les achillées millefeuilles, les monardes, les asclépiades indigènes, les rudbeckises, les échinacées et les odérans boudlejas. Le bouquet d'automne sera composé d'asters, de verges d'or et de sédums. En savoir plus, 70% de la reproduction des plantes à fleurs est attribuable au travail incessant des insectes pollinisateurs. C'était « Pollinisateurs recherche fleur idéale », un texte de Pierre Gingras, paru le 6 mai 2023 dans la presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visezvoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier à la lecture, Francine Thériault et Diane Métayé à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.